Alors, bonjour. Alors que ce soit dans l'introduction que nous a apportée Eric ou par vos interventions, mais ma vision à moi, puisque j'avais une petite idée de ce qui allait se passer maintenant, je peux voir la direction du Saint-Esprit qui intervient dans les uns et dans les autres pour que, en fait, ce culte du début à la fin forme un tout. Et donc ce partage de ce matin sera en droite ligne à ce qui s'est dit. Sera aussi une continuité, une petite facette parmi toutes les facettes qu'on verra cette année. On en avait une jeudi soir à travers de l'étude sur le sujet de notre année, une église pour quoi faire. Alors dans l'introduction d'un de ces livres, voilà ce que dit Alfred Kuhn, je le cite. Beaucoup d'hommes admirent Jésus-Christ, son exemple, son enseignement, sa morale. Jésus-Christ ? Oui. Mais pourquoi l'Église ? Beaucoup de chrétiens aiment Dieu comme un Père, croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Mais pourquoi l'Église ? Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit me suffisent. Pendant de nombreux siècles, on pensait que la vie solitaire permettait d'atteindre les plus hauts sommets de la vie chrétienne. L'ermite représentait le chrétien idéal. Beaucoup de chrétiens pensent que l'appartenance à une église n'est pas nécessaire et se considèrent simplement comme membres de l'église universelle. Et pourtant, il continue, Jésus-Christ a institué l'église, on voit ça surtout dans Matthieu, les apôtres ont fondé les églises locales, et tous les chrétiens des premiers siècles vivaient dans les églises. Et Alfred de conclure donc, pourquoi l'Église ? Pour Dieu, pour la croissance des chrétiens et l'évangélisation du monde. Voilà donc une introduction. Alors l'Église d'aujourd'hui est-elle adaptée à notre époque ? L'Église d'aujourd'hui est-elle moderne ? Ou bien est-ce que l'Église d'aujourd'hui est mondaine ? Ouh là là, François, ouf là ! Quel vilain mot ! J'espère que quand même c'est pas un gros mot, mondain. En tout cas, une Église moderne, qu'est-ce que ce peut être ? Une église moderne, c'est une église qui sait être pertinente. C'est-à-dire une église qui sait faire la différence face aux problématiques que le monde propose ou impose. Une église pertinente, c'est-à-dire qui propose des réponses concrètes aux besoins de ceux de l'extérieur, mais aussi pour nous. Alors c'est à coup sûr un des plus grands défis de notre génération et des générations qui viendront avant le retour du Seigneur. Quel plus grand défi ? Faire la différence. Et celui qui fait la différence, c'est Jésus-Christ. Alors, une première question, Jésus-Christ fait-il la différence dans ma vie ? Jésus-Christ fait-il la différence dans notre Église ? Fait-il la différence par le moyen de notre Église ? Nous avons une certitude, Christ est vivant. Donc, ça veut dire qu'il peut être expérimenté, qu'il peut être éprouvé dans nos vies, dans tous nos défis de famille et nos défis d'église. Église moderne ou église mondaine ? Alors, j'espère que nous ne sommes pas à son aura comme quelques-uns qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre moderne et mondain. Selon vous, quel est le groupe religieux dans le monde qui fait cette association? Être moderne, c'est être mondain. Outre-Atlantique. Non, ça ne vous vient pas? Les Amish. Hein? Alors, on n'est pas directement concerné en France par ce groupe, bien que leur origine se trouve en France et en Alsace précisément, environ dans les années 1693, selon les historiens. Alors, les Amish se trouvent principalement aux États-Unis et encore pas partout. Et ils sont connus, comme vous le savez, pour vivre de façon très simple et en tout cas à l'écart de la vie moderne. Alors, concernant les Amish, est-ce que vous savez quelle est leur toute première règle de base? Une question? Non? Voilà la réponse. Tu ne te conformeras point au monde qui t'entoure. Voilà sur quoi est basé leur principe de vie. Tu ne te conformeras point au monde qui t'entoure. Alors, pour eux, tout ce qui est moderne, à tout point de vue, sur les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de transport, de communication, en fait, ce qui relève beaucoup de l'énergie électrique en général est considéré par eux comme mondain. Alors, sur certains aspects, il y a de bonnes choses. Mais sur le plan de la crédibilité, face à notre société, il apparaît qu'il renvoie surtout une image un petit peu spéciale qui ne facilite pas le témoignage. Et l'exhortation de Romains 12, 2 de ne pas se conformer au monde, au siècle présent, est-ce le refus de la modernité? Cette exhortation de Romains 12, est-ce le refus de l'Église de vivre dans son temps, d'accomplir sa mission dans son temps, avec des moyens adaptés à son temps? On peut s'autoriser de penser que non. Mais pour autant, l'Église doit-elle être mondaine? C'est-à-dire être comme le monde ou tomber dans le monde. Alors j'ai appris dernièrement une autre mouvance du monde chrétien contemporain, l'Église émergente, qui va, elle, à l'opposé des Amish. C'est-à-dire que ce mouvement fait tout pour se fendre avec le monde, avec la manière de vivre du monde, au point qu'ils arrivent à dire même qu'au fond, ben, la Bible, elle ne détient pas toute la vérité, et que Jésus-Christ, au fond, n'est peut-être pas le seul chemin. L'exhortation de Romains 12, ne pas tomber dans le monde. La parole de Dieu nous dit, vous êtes dans le monde. Ça, c'est pour les premiers, les Amish. Vous n'êtes pas en lévitation, vous êtes dans le monde, là. C'est une réalité. Et la parole de Dieu continue, mais vous n'êtes pas du monde. Alors ça, c'est pour les seconds. Hein. Ne vous conformez pas au monde. Alors, pourquoi l'Église? Pour faire la différence. Une exhortation à ce que notre Église sache être une Église moderne. Utiliser des moyens propices qui favorisent l'expansion de l'Évangile et l'édification des enfants de Dieu. Une Église qui sait utiliser des outils, des moyens de son temps, au milieu des contraintes de son temps, une Église pertinente. Alors, pour la plupart, vous étiez là, dimanche passé, vous avez vu l'exemple de l'Église d'Algérie, hein, et les trois témoignages que nous avons eus dimanche dernier. L'Évangile par les médias, par le moyen de ces paraboles, hein. Et cette exhortation et ce rappel de Mustapha, rappelant les versets de Matthieu, qui nous disait ce qu'on vous dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Oui, une exhortation à être une église moderne. Mais une exhortation à ce que notre église ne soit pas mondaine. C'est-à-dire une église qui garde ses valeurs chrétiennes, qui garde l'éthique chrétienne. Une église qui ne craigne pas de souffrir pour conserver et proclamer les vérités du message de l'Évangile, les messages de l'éthique chrétienne. Une église qui témoigne d'un peuple uni, comme ce matin, et qui se retrouve ensemble pour adorer son Dieu et Sauveur. Dans tout ce que le monde nous propose aujourd'hui, et ce qui est en train de se passer, notamment en France en ce moment, sur le thème de l'homosexualité, par exemple, de sa pleine reconnaissance, pour ce sujet-là, comme pour tant d'autres, il me semble que le temps s'approche à grands pas, où nous allons devoir à choisir entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Alors, question, est-ce que je sais faire la différence? À quel moment peut-on basculer de moderne à mondain? Une lapalissade, quand nous ne sommes plus capables de faire la différence entre ce qui est moderne de ce qui est mondain. Comme nous l'a indiqué dans son message il y a deux semaines, Colin, lorsque l'on n'est plus capable d'identifier les idoles contemporaines. Les nouvelles idoles, celles de notre temps, d'aujourd'hui, au moment où nous nous éloignons de l'Évangile, de ce qu'il enseigne réellement sur des sujets bien précis. Car c'est l'Évangile qui va nous aider à faire la différence. On bascule du moderne au mondain. À quel moment? Au moment où on ne renonce plus aux propositions que le monde nous offre et qui sont contraires à l'Évangile. Au moment où l'Église se confond avec le monde. Alors, quelle piste pour éviter cette dérive? Nous rapprocher de Jésus-Christ. C'est ce qui va nous aider à faire la différence. L'Évangile ne peut pas être populaire, justement parce qu'il propose une différence. Alors, que nous dit le dictionnaire sur ces deux mots, moderne et mondain? Alors, d'abord, le mot moderne. Ce qui est actuel, contemporain, de son temps, ce qui est récent. Est-ce qu'il y a du mal à cela? Est-ce que je désire que mon église soit actuelle? Est-ce que je désire que mon église soit de son temps, récente? Est-ce qu'une église moderne, c'est une église qui a la clim réversible? Hein? Donc, une église moderne, c'est une église dans son temps, qui œuvre dans son temps, avec les moyens de son temps. Alors maintenant, que nous dit le dictionnaire sur le vilain mot mondain? Ce qui est relatif au monde, ce qui appartient au monde. Et là, il précise, opposé aux religieux. Puis ça continue. Ce qui appartient au siècle présent, ce qui est relatif au divertissement, ce qui est attaché aux vanités, attaché au bien de ce monde. Je ne vous cite pas la Bible là, je vous cite le dictionnaire. Donc, mondaine, c'est quoi? C'est un amour pour le monde. C'est un amour pour le siècle présent. C'est un attachement au divertissement. Un attachement pour les vanités. Un amour pour les biens de ce monde. Alors, est-ce qu'on peut faire maintenant la différence entre moderne et mondain? Mais alors, faudrait-il ne pas être moderne pour éviter le piège d'être mondain? Une question, ça, hein? Est-ce qu'en refusant la modernité, on a résolu le problème de l'attirance des vanités? Pas sûr du tout, mais c'est peut-être même le contraire. A priori, les Amish non plus n'ont pas résolu ce problème. Le refus de la modernité ne nous empêche pas d'être soumis à l'attirance, d'être soumis à la tentation. Ce n'est pas le fait de ne pas être moderne qui fait que l'on a réglé le problème de la tentation et des choses de la chair ou des vanités de ce monde. Donc voilà le problème réglé entre moderne et mondain. On sait ce que signifie être moderne, on sait ce que signifie être mondain. On peut être moderne, on ne doit pas être mondain. Mais comment éviter d'être mondain? Éviter d'être mondain, c'est de discerner ce qui peut nous permettre de le devenir. Et une des plus grandes idoles de notre temps, pour revenir sur ce sujet, c'est l'idole du culte de la liberté individuelle. Le culte de la liberté individuelle. Un cinéaste étranger contemporain qui est axé toute sa carrière et sa vie principalement sur la sociologie dit que notre société, je le cite, vit des changements culturels profonds qui se sont dessinés depuis longtemps et qui portent notre société vers quoi? Vers le culte de la liberté individuelle. Et il ajoute que notre société va ressembler à une jungle où les seules envies vont vers l'assouvissement des désirs individuels. Le culte à Dieu, remplacé par l'idole du culte de la liberté individuelle. Moi, mes besoins, mes droits, etc., etc. Les autres me doivent quelque chose. Mais moi, je ne dois rien à personne. Alors, si cette question avait été posée à nos parents, aux miens, par exemple, je ne suis pas trop vieux, hein, c'est pas très loin quand même, hein. Si cette question avait été posée à mes parents, devez-vous quelque chose aux autres? Qu'est-ce qu'ils auraient répondu? Imaginez un peu. Ils auraient pu répondre certainement, ce que je dois aux autres, c'est le respect. Ils auraient pu répondre, je dois la vérité aux autres. Je dois la fidélité aux autres. Ils avaient quelque chose qu'ils devaient aux autres. À la question posée aujourd'hui, que dois-tu aux autres? La réponse que vous obtenez, c'est rien. Ça, c'est la pensée du monde, l'esprit du monde, le culte de la liberté individuelle. Et puis, il y a un autre culte aussi qui remplace celui du culte de la religion, hein, c'est celui des produits à profusion. La croyance qui est largement partagée et celle que d'acheter ce qu'il y a de mieux va nous porter vers un bonheur ou un statut meilleur. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. On est emporté par cette quête du meilleur pour soi, sans se soucier des autres. L'accent sur le moi, mes besoins, mon bonheur. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Et comme on le disait tout à l'heure, l'actualité nous rattrape. Hein? Avec ce sujet des homosexuels qui disent « Nous avons le droit de nous marier !» invoquant le principe égalitaire, comme s'il ne devait pas y avoir de différence, et j'en passe. Comment éviter de tomber dans le piège du monde? Comment éviter de devenir mondain? Il nous faut revenir et rester à ce qui est notre socle, notre base inébranlable en tant qu'enfant de Dieu. Revenir à l'Évangile, à Jésus-Christ, à son message, à sa capacité de nous aider, à sa capacité de nous convaincre. Et s'il y a une prière que nous pourrions formuler ce matin, ce serait au Seigneur, ce serait celle-ci. Merci Seigneur, parce que au sein même d'un monde qui te nie, qui te combat, qui te rejette, merci Seigneur parce que tu es vivant. Et pas simplement d'une manière abstraite, mais vivant dans chacun de nous, nous, tes enfants, par la foi. Merci Seigneur de nous donner, de laisser notre vieille manière de vivre que nous avions héritée de nos pères, pour te suivre, pour que tu sois dans notre époque la référence au plus profond de notre cœur. Puisses-tu, Seigneur, nous accorder de faire apparaître cette marque de distinction que toi seul représentes au milieu de ce monde. Donne-nous, Seigneur, de montrer au monde d'aujourd'hui qui tu es vraiment. Car c'est toi, Seigneur, qui va faire la différence. Alors, si nous prenons comme modèle, par exemple, l'apôtre Paul, hein, quel est son message pour notre Église? Au travers de ces lettres, on peut se rendre compte que Paul avait une crainte. Alors, pas la crainte pour sa vie, hein, bien au contraire. Quelle était la crainte de Paul? Sa crainte a toujours été qu'au sein de l'Église qui vit dans le monde, le message de l'Évangile s'estompe et finisse par disparaître. Et nous en avons la preuve par son grand nombre d'exhortations. Quelles exhortations? À demeurer ferme dans la foi en Jésus-Christ. À demeurer fidèle à l'Évangile et fidèle dans la mission de répandre ce même évangile. Et s'il y a une entrave à l'accomplissement de cette mission, c'est bien le fait d'être attaché au bien de ce monde. Et d'être donc mis, dans ce cas-là, dans l'incapacité, l'impossibilité de proposer une différence, une église pertinente. Pris dans l'engrenage de l'assouvissement des désirs de posséder mieux, de posséder plus et finir par ressembler au monde. Dans l'impossibilité d'être pour ce monde la lumière et les flambeaux que nous sommes appelés à être. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mon Église, pourquoi faire? Se consacrer au message de l'Évangile était tout le message de Paul, entre autres, à Timothée. Et donc pour nous, l'apôtre Paul s'était battu toute sa vie, enfin, on peut dire sa seconde vie, hein, pour cet objectif-là. Et donc le rôle qui nous incombe à chacun de nous, de manière individuelle, mais collectivement en Église, est toujours le même que celui qui a été confié à Timothée. Dans sa seconde et dernière lettre à Timothée, Paul n'avait pas vous la relirez, de nouvelles vérités à annoncer à Timothée, qui serait resté caché et qu'il voulait à ce moment-là lui révéler. Le seul message était celui pour lequel il avait consacré sa vie, Paul, celui d'annoncer le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, il n'est pas que pour les non-croyants, certes il l'est, bien sûr, sinon on ne serait pas là, mais il est aussi pour les enfants de Dieu, à rester attachés à Christ, à son Église. Ce message de Paul pourrait se résumer en deux mots, tenir, transmettre, de Timothée 4, 5. Toi, si bien dit toi, moi, bien sûr, hein, reste sobre en toutes choses, supporte les souffrances, ça c'est l'aspect tenir. Et puis pour l'aspect transmettre, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Est-ce que ce message de Paul qui me parvient me touche? Est-ce que ce message m'éclaire sur ma mission? Est-ce qu'il m'invite de manière personnelle? Est-ce qu'il invite notre Église et précise sa mission? Pour conclure, un dernier passage que je vous invite à lire dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, et nous lirons les versets 1 à 9. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, dont pour nous ici à Sonora, qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en juste 9 versets, Paul fait référence ou cite le nom du Seigneur Jésus-Christ 10 ou 11 fois. En à peine 9 versets. Paul rappelle par ce moyen les vérités fondamentales fondées sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous appelle. C'est Jésus qui nous sanctifie. C'est lui que nous invoquons. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il a l'autorité sur nous. C'est lui qui contrôle, qui maîtrise. Nous avons lu que c'est Jésus qui nous offre grâce et paix, que c'est lui qui nous enrichit, que c'est lui qui établit son témoignage en nous, et que c'est lui qui nous affermira pour tenir jusqu'à la fin. Paul présente ici l'importance de connaître Jésus. En fait, en y réfléchissant, notre défi à nous n'est pas peut-être d'être mondain. Il me semble que c'est son défi à lui de nous aider à ne pas l'être. Mais notre défi à nous, à chacun ce matin, est le mien. Notre défi personnel, c'est de le connaître, lui, de manière personnelle. C'est lui qui va nous rendre irréprochables. Alors pour conclure, je voudrais vous inviter maintenant à peut-être baisser la tête, à fermer nos yeux dans un petit moment de recueillement. Donne-moi, Seigneur, de mettre un visage sur ce qui est mondain aujourd'hui, afin de ne pas être comme le monde, de me laisser influencer par cette société de consommation, de perversité, de dépendance, qui entraverait et polluerait le témoignage qui doit être le mien, qui gommerait ma différence. Et donne-moi plutôt, Seigneur, de répondre à ton invitation. Permets-moi de tout remettre entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, de revenir pour les uns et de rester pour les autres, attachés à l'Évangile. Que je puisse pratiquer cette nécessité qui est la nôtre à tous de recourir à la prière, pour avoir la force de vivre cette vie de différence et d'être préservé du mal. Amen. Alors que notre Église puisse saisir la différence entre moderne et mondaine pour remplir sa mission d'une manière renouvelée, d'une manière moderne, d'une manière adaptée au message de l'Évangile et capable de faire avec le Seigneur la différence.